Quatrième partie. Réguler le capital au XXIe siècle. Chapitre 13. Un état social pour le XXIe siècle. Nous avons analysé dans les trois premières parties de ce livre l'évolution de la répartition des richesses et de la structure des inégalités depuis le XVIIIe siècle. Il nous faut maintenant tenter d'en tirer les leçons pour l'avenir. En particulier, l'un des principaux enseignements de notre enquête est que ce sont les guerres, dans une large mesure, qui ont fait table rase du passé et qui ont conduit à une transformation de la structure des inégalités au XXe siècle. En ce début de XXIe siècle, certaines inégalités patrimoniales que l'on croyait révolues semblent en passe de retrouver leur sommet historique, voire de les dépasser, dans le cadre de la nouvelle économie monde, porteuse d'immenses espoirs, la fin de la pauvreté, et de déséquilibres qui le sont tout autant, des individus aussi riches que des pays. Peut-on imaginer pour le XXIe siècle un dépassement du capitalisme qui soit à la fois plus pacifique et plus durable? Ou bien doit-on simplement attendre les prochaines crises ou les prochaines guerres, véritablement mondiales cette fois? Sur la base des évolutions et expériences historiques que nous avons mises à jour, quelles institutions et politiques publiques pourraient permettre de réguler de façon à la fois juste et efficace le capitalisme patrimonial mondialisé du siècle qui s'ouvre? Ainsi que nous l'avons déjà noté, l'institution idéale permettant d'éviter une spirale inégalitaire sans fin et de reprendre le contrôle de la dynamique en cours serait un impôt mondial et progressif sur le capital. Un tel outil aurait en outre le mérite de produire de la transparence démocratique et financière sur les patrimoines, ce qui est une condition nécessaire pour une régulation efficace du système bancaire et des flux financiers internationaux. L'impôt sur le capital permettrait de faire valoir l'intérêt général sur les intérêts privés, tout en préservant l'ouverture économique et les forces de la concurrence. Il n'en va pas de même des différentes formes de repli national ou identitaire qui risquent fort de servir de pis-aller à cette institution idéale. Dans sa forme véritablement mondiale, l'impôt sur le capital est sans doute une utopie. À défaut, une telle solution peut toutefois être appliquée avec profit à une échelle régionale ou continentale, et en particulier européenne, en commençant par les pays qui le souhaitent. Mais avant d'en arriver là, il nous faut tout d'abord replacer cette question de l'impôt sur le capital, qui ne sera jamais que l'un des éléments d'un système fiscal et social idéal, dans un contexte beaucoup plus large, celui du rôle de la puissance publique dans la production et la répartition des richesses et de la construction d'un état social adapté au XXIe siècle. La crise de 2008 et la question du retour de l'État. La crise financière planétaire ouverte en 2007-2008 est généralement décrite comme la plus grave qu'ait connue le capitalisme mondial depuis celle de 1929. Cette comparaison est en partie justifiée, mais elle ne doit pas faire oublier plusieurs différences essentielles. La plus évidente est que la crise récente n'a pas débouché sur une dépression aussi dévastatrice que la précédente. Entre 1929 et 1935, le niveau de production des grands pays développés a chuté d'un quart, le chômage a augmenté d'autant, et la planète n'est totalement sortie de cette grande dépression qu'en entrant dans la Seconde Guerre mondiale. La crise actuelle, fort heureusement, a été nettement moins cataclysmique. C'est pourquoi on l'oppose souvent à celle des années 1930, en la désignant sous l'appellation un peu plus rassurante de « grande récession ». Les principales économies développées ont certes à peine retrouvé en 2013 leur niveau de production de 2007. Les finances publiques y sont en piteux état et les perspectives de croissance apparaissent durablement moroses, notamment en Europe, empêtrées dans une interminable crise de la dette publique, ce qui est ironique s'agissant d'un continent où le rapport patrimoine-revenu est le plus élevé du monde. La chute de la production, au plus fort de la récession en 2009, n'a toutefois pas dépassé 5% dans la plupart des pays riches, ce qui est suffisant pour en faire la plus grave récession globale depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais ce qui est très différent de l'effondrement massif et des faillites en série observées dans les années 1930. la croissance des pays émergents a en outre très vite repris ses rythmes antérieurs et tire la croissance mondiale des années 2010. La principale raison pour laquelle la crise de 2008 n'a pas débouché sur une dépression aussi grave que celle de 1929 est que les gouvernements et les banques centrales des pays riches n'ont cette fois-ci pas laissé le système financier s'effondrer et ont accepté de créer les liquidités nécessaires permettant d'éviter les cascades de faillites bancaires qui, dans les années 1930, avaient mené le monde au bord du gouffre. Cette politique monétaire et financière pragmatique, aux antipodes de l'orthodoxie liquidationniste qui avait prévalu un peu partout après le krach de 1929, il faut liquider les canards boiteux, pensait notamment le président américain Hoover jusqu'à son remplacement par Roosevelt au début de l'année 1933, a permis d'éviter le pire. Elle a également rappelé au monde que les banques centrales ne sont pas là pour regarder passer les trains et se contenter de maintenir une inflation faible. Dans des situations de panique financière totale, elles jouent un rôle indispensable de prêteur de dernier ressort, et elles sont même la seule institution publique permettant dans l'urgence d'éviter l'effondrement complet de l'économie et de la société. Cela étant, les banques centrales ne sont pas outillées pour résoudre tous les problèmes du monde. La politique pragmatique qui a suivi la crise de 2008 a sans doute permis d'éviter le pire, mais elle n'a pas véritablement apporté de réponse durable aux problèmes structurels qui l'ont rendu possible, en particulier le manque criant de transparence financière et la montée des inégalités. La crise de 2008 apparaît comme la première crise du capitalisme patrimonial mondialisé du XXIe siècle. Il est peu probable que ce soit la dernière. De nombreux observateurs dénoncent et regrettent l'absence d'un véritable retour de l'État sur la scène économique et font remarquer que la crise des années 1930, malgré toute sa brutalité, avait au moins eu le mérite de conduire à des changements beaucoup plus radicaux, notamment en termes de politique fiscale et budgétaire. Roosevelt n'avait-il pas en quelques années porté à plus de 80% le taux supérieur de l'impôt fédéral sur le revenu applicable aux revenus les plus démesurément élevés, alors que ce taux n'était que de 25% sous Hoover? Par comparaison, on se demande encore à Washington si l'administration Obama parviendra pendant son second mandat à porter le taux supérieur du niveau laissé par Bush, environ 35%, au-delà de celui où Clinton l'avait porté dans les années 1990, autour de 40%. Nous reviendrons dans le prochain chapitre sur cette question des taux d'imposition confiscatoire sur les revenus jugés indécents et économiquement inutiles, qui est effectivement une innovation américaine marquante de l'entre-deux-guerres, et qui, à mon sens, mériterait d'être repensée et ressuscitée, notamment dans le pays qui l'a imaginé en premier. Mais, outre que l'on ne saurait résumer une politique fiscale et budgétaire à la question du taux supérieur confiscatoire appliqué aux revenus les plus élevés, qui par définition ne rapporte presque rien, et que l'impôt progressif sur le capital est un outil plus adapté pour répondre aux défis du XXIe siècle que l'impôt progressif sur le revenu inventé au XXe siècle, nous verrons toutefois que ces deux outils peuvent jouer des rôles utiles et complémentaires à l'avenir, il est important de dissiper dès à présent un important malentendu. La question du retour de l'État ne se pose pas du tout de la même façon dans les années 2010 que dans les années 1930 pour une raison simple. Le poids de l'État est beaucoup plus lourd aujourd'hui qu'il ne l'était à l'époque, et il est même dans une large mesure plus lourd qu'il ne l'a jamais été. C'est pourquoi la crise actuelle se traduit à la fois par une mise en accusation des marchés et une remise en cause du poids et du rôle de la puissance publique. Cette seconde remise en cause n'a pas cessé depuis les années 1970-1980 et elle ne cessera jamais. À partir du moment où la puissance publique joue dans la vie économique et sociale le rôle central qu'elle a acquis dans les décennies de l'après-guerre, il est normal et légitime que ce rôle soit en permanence débattu et remis en question. Cela peut sembler injuste à certains, mais cela est inévitable et naturel. Il en résulte parfois une certaine confusion et des incompréhensions violentes opposant des positions apparemment irréconciliables. Certains réclament à corps et à cri le retour de l'État sous toutes ses formes, laissant entendre qu'il aurait disparu. D'autres exigent son démantèlement immédiat, notamment là où il est le plus absent, aux États-Unis, où certains groupes issus des Tea Parties veulent supprimer la réserve fédérale et revenir à l'étalon or. En Europe, les joutes verbales entre Grecs paresseux et Allemands nazis ne sont pas toujours plus tendres. Tout cela ne facilite pas le règlement des problèmes. Pourtant, les deux points de vue, anti-marché et anti-État, ont chacun leur part de vérité. Il faut tout à la fois inventer de nouveaux outils permettant de reprendre le contrôle d'un capitalisme financier devenu fou, et rénover et moderniser profondément et en permanence les systèmes de prélèvements et de dépenses qui sont au cœur de l'État social moderne et qui ont atteint un degré de complexité qui menace parfois gravement leur intelligibilité et leur efficacité sociale et économique. Cette double tâche peut sembler insurmontable et elle constitue de fait un défi immense pour nos sociétés démocratiques dans le siècle qui s'ouvre. Mais elle est nécessaire et même incontournable. Il est impossible de convaincre une majorité de citoyens qu'il faut créer de nouveaux outils publics, de surcroît à l'échelon supranational, si l'on ne démontre pas dans le même temps que les outils déjà en place fonctionnent correctement. Pour bien comprendre la nécessité de cette double tâche, il nous faut d'abord revenir un peu en arrière et rappeler brièvement les grandes lignes d'évolution de la structure des prélèvements et des dépenses publiques dans les pays riches depuis le XIXe siècle. Le développement d'un État social au XXe siècle. Pour mesurer l'évolution du rôle de la puissance publique dans la vie économique et sociale, le plus simple consiste à examiner l'importance prise par l'ensemble des impôts et prélèvements dans le revenu national. Suivant l'usage, nous avons inclus dans les prélèvements obligatoires l'ensemble des impôts, taxes, cotisations sociales, prélèvements de toute nature, que chacun est dans l'obligation de payer, sauf à se mettre hors la loi. Les distinctions entre ces différentes notions, en particulier entre impôts et cotisations, ne sont pas toujours très claires, et en tout état de cause, n'ont pas la même signification dans tous les pays. Pour faire des comparaisons historiques et internationales, il est important de prendre en compte l'ensemble des prélèvements, qu'ils soient acquittés à l'État central ou fédéral, aux collectivités locales ou régionales, ou aux diverses administrations publiques, caisses de sécurité sociale, etc. Pour simplifier l'exposition, nous parlerons parfois des impôts, mais sauf précision contraire, nous incluons toujours l'ensemble des prélèvements obligatoires. Nous avons représenté sur le graphique 13.1 les trajectoires historiques de quatre pays, États-Unis, Royaume-Uni, France, Suède, relativement représentatives de la diversité des situations observées dans les pays riches. On constate plusieurs similarités frappantes dans ces évolutions, ainsi que des différences importantes. La première similarité est que les impôts représentaient moins de 10% du revenu national dans tous les pays au XIXe siècle et jusqu'à la Première Guerre mondiale. Cela correspond à une situation où l'État s'implique très peu dans la vie économique et sociale. Avec 7%, 8% du revenu national, il est possible de remplir les grandes fonctions régaliennes, police, justice, armée, affaires étrangères, administration générale, etc. Mais pas beaucoup plus. Une fois financé le maintien de l'ordre, le respect du droit de propriété et les dépenses militaires, qui à elles seules représentent souvent près de la moitié du total, il ne reste pas grand-chose dans les caisses publiques. Les dépenses militaires représentent généralement au moins 2-3% du revenu national et peuvent monter très au-delà dans un pays particulièrement actif militairement, plus de 4% du revenu national actuellement aux États-Unis, ou dans des pays qui se sentent menacés dans leur sécurité et leur droit de propriété, plus de 10% du revenu national en Arabie Saoudite ou dans les pays du Golfe. Les États, à cette époque, financent aussi quelques routes et infrastructures minimales, ainsi qu'un certain nombre d'écoles, d'universités et de dispensaires. Mais les services publics d'éducation et de santé accessibles au plus grand nombre sont le plus souvent assez sommaires. Les budgets d'éducation et de santé ne dépassent généralement pas 1-2% du revenu national au XIXe siècle. À partir des années 1920-1930 et jusqu'aux années 1970-1980, on assiste dans l'ensemble du monde riche à un accroissement considérable de la part du revenu national que les différents pays choisissent de consacrer aux impôts et aux dépenses publiques, et en particulier aux dépenses sociales. Dans tous les pays développés, en tout juste un demi-siècle, la part des impôts dans le revenu national est multipliée par un facteur d'au moins 3 ou 4, parfois par plus de 5, comme dans les pays nordiques. On constate ensuite, là encore dans tous les pays, une stabilisation presque complète de la part des impôts dans le revenu national depuis les années 1980 jusqu'aux années 2010. Cette stabilisation se fait à des niveaux assez différents les uns des autres. À peine plus de 30% du revenu national aux États-Unis, autour de 40% au Royaume-Uni et entre 45 et 55% du revenu national en Europe continentale, 45% en Allemagne, 50% en France et près de 55% en Suède. Les écarts entre pays sont loin d'être négligeables, mais il est frappant de constater à quel point les évolutions séculaires d'ensemble sont proches les unes des autres, en particulier concernant la stabilité quasi parfaite observée dans tous les pays au cours des trois dernières décennies. Les alternances politiques et les spécificités nationales ne sont pas totalement absentes du graphique 13.1, par exemple pour le Royaume-Uni et la France, mais elles n'ont qu'une importance somme toute limitée face à cette stabilisation d'ensemble. Ainsi donc, tous les pays riches, sans exception, sont passés au cours du XXe siècle d'un équilibre où ils consacrent moins d'un dixième de leur revenu national aux impôts et aux dépenses communes, à un nouvel équilibre où ils en consacrent durablement entre un tiers et la moitié. Le Japon se situe légèrement au-dessus des États-Unis, 32-33% du revenu national. Le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont plus proches du niveau du Royaume-Uni, 35-40%. Plusieurs points essentiels doivent être précisés au sujet de cette transformation fondamentale. Tout d'abord, on voit à quel point la question du retour de l'État peut sembler pour beaucoup incongrue dans le contexte actuel. Le poids de la puissance publique n'a jamais été aussi élevé. Pour avoir une vision d'ensemble du rôle de l'État dans la vie économique et sociale, il faut certes prendre en compte d'autres indicateurs. L'État intervient en fixant des règles, et non seulement en prélevant des impôts pour financer des dépenses et des transferts. Par exemple, les marchés financiers sont beaucoup moins étroitement régulés depuis les années 1980-1990 qu'ils ne l'étaient des années 1950 aux années 1970. L'État peut également intervenir comme producteur et détenteur du capital. Les privatisations réalisées au cours des trois dernières décennies dans le secteur industriel et financier ont là encore réduit son rôle par comparaison aux trois décennies de l'immédiate après-guerre. Il n'en reste pas moins que, du point de vue de son poids fiscal et budgétaire, ce qui n'est pas rien, la puissance publique n'a jamais joué un rôle économique aussi important qu'au cours des dernières décennies. Aucune tendance à la baisse n'est décelable, contrairement à ce que l'on entend parfois. Certes, dans un contexte de vieillissement de la population, de progrès des technologies médicales et de besoins de formation sans cesse plus forts, le simple fait de stabiliser les prélèvements publics en proportion du revenu national est en soi une gageure qu'il est toujours plus facile de promettre dans l'opposition que de réaliser une fois au pouvoir. Il n'en reste pas moins que les prélèvements obligatoires représentent aujourd'hui près de la moitié du revenu national un peu partout en Europe, et que personne n'envisage sérieusement pour les décennies à venir un accroissement comparable à celui qui a eu lieu au cours de la période 1930-1980. À la suite de la crise des années 1930, et dans le contexte de l'après-guerre et de la reconstruction, on pouvait raisonnablement considérer que la solution au problème du capitalisme était un accroissement sans limite du poids de l'État et de ses dépenses sociales. Aujourd'hui, les choix sont forcément plus complexes. Le grand bond en avant de l'État a déjà eu lieu, il n'aura pas lieu une seconde fois, ou tout du moins pas sous cette forme.